J'ai toujours aimé les films à grand spectacle avec des monstres qui sont là pour nous faire peur alors que je suis confortablement assis dans mon fauteuil. J'admire le savoir-faire et l'ingéniosité de ceux qui créent les effets spéciaux. À l'origine, en papier mâché, ces monstres sont aujourd'hui des images virtuelles. Mais que ce soit les uns ou les autres, en vérité, ils n'ont vraiment rien d'effrayant parce qu'ils n'existent pas. Par contre, s'ils gambadaient dans les rues, ce serait une toute autre affaire. À la fin des temps, surgira une alliance d'États despotiques qui aura à sa tête un être tellement vil et méchant que le pire des monstres que vous pouvez imaginer est un enfant de cœur à côté de lui. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ses cornes et voilà qu'au milieu d'elle surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. L'apparition de la quatrième bête se fait en 3 étapes. On voit d'abord l'animal, puis les 10 cornes de sa tête, et enfin la petite corne. Il semble qu'il s'agisse du déroulement d'une histoire. Comme je l'ai dit, cette bête est l'Empire romain. Mais il aura plusieurs phases. Un jour apparaîtra un ensemble de 10 États, ou peut-être plus, car il ne faut pas toujours prendre le chiffre 10 à la lettre. En effet, dans les Écritures, il peut désigner soit 10 unités, soit symboliquement une totalité. Puis du milieu de cet état surgira un nouveau-venu. D'abord petit et insignifiant, il croîtra très vite et remplacera brusquement et violemment 3 états, sans doute en les assimilant. Cette petite corne est décrite comme ayant des yeux, ce qui représente la ruse et l'ingéniosité. Cet homme est véritablement et littéralement diablement intelligent. Il le sait et s'en glorifie, et son orgueil est à la mesure de son pouvoir. Les Écritures le nomment l'Antichrist. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul décrit cet homme inique en disant que le jour du Seigneur commencera après l'apostasie, c'est-à-dire en abandon quasi total de la foi et suite à la manifestation de l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice. La seconde phase de l'Empire romain est représenté dans la statue de Nabucodonosor par les 10 orteils qui sont un mélange de fer et d'argile, ce qui semble signifier un pouvoir autocratique au sein d'une alliance fragile d'États issus de l'Empire romain. À l'heure actuelle, les pays de la Communauté européenne ont tous un régime démocratique où chacun veut avoir son mot à dire. Alors on vote. Et on élit des candidats censés représenter le peuple, mais en réalité, ce sont les troupes de pression, les lobbies, les grands argentiers et les magouilles politiciennes qui décident le vainqueur. Ce système biscornu, qui donne une légitimité de vitrine aux élus, permettra à l'Antichrist de prendre le pouvoir. Mais quand Jésus établira son royaume, il sera le roi doté d'un pouvoir absolu. Il n'y aura ni élection, ni consultation, ni chambre de ceci ou de cela. Ce sera un régime dictatorial bienveillant. On sait déjà que le Seigneur n'essaiera pas de se remplir les poches. D'ailleurs, l'argent, tel que nous le connaissons, n'aura plus cours. Ensuite, il fera régner la justice, la vraie, sans entre-loupettes et sans vice de forme ou de procédure. Et le monde entier devra courber l'échine sous son sceptre royal. Je continue le texte. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. L'ancien des jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme la laine pure. Son trône, embrasé de feu en flamme, avec des roues de feu ardentes. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Par ces paroles, je regardais encore. Daniel veut attirer l'attention de ses lecteurs sur le changement de scène. Nous sommes dans un tribunal qui comprend plusieurs trônes sur lesquels prennent place des juges. Le seul mentionné est l'ancien des jours, c'est-à-dire le Dieu souverain de toute éternité qui contrôle hommes et nations. Le prophète Ésaïe écrit « Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint. » L'ancien des jours porte un vêtement blanc comme de la neige. Dans les Écritures, la couleur blanche symbolise la sainteté parfaite. Dans l'Évangile, selon Marc et le livre de l'Apocalypse, Jésus est décrit d'une façon similaire à l'Éternel. Je lis ces passages. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Les cheveux de l'ancien des jours sont en laine pure, ce qui représente à la fois majesté et sagesse. Dans ce tribunal se trouvent d'autres trônes, mais Daniel ne précise pas qui les occupe. Cependant, on les retrouve lors du jugement qui aura lieu après la grande tribulation et juste avant que ne commence le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Or, dans la salle d'audience seront présents ceux qui ont été mis à mort par l'Antéchrist à cause de leur foi, mais qui sont ressuscités. Tout porte donc à croire que ce sont des croyants qui sont assis sur des trônes et qui jugent avec Dieu, car les anges n'ont pas cette fonction. Dans les Écritures, le feu qui entoure le trône de Dieu et qui en sort signifie qu'il s'agit d'une scène de jugement. Cette vision de Daniel rappelle beaucoup de descriptions que fait Ézéchiel de la gloire divine qu'il a vue au début de son ministère prophétique. Je continue le texte. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et non ouvrit les livres. Littéralement, le texte dit « mille milliers le servaient ». Une myriade de myriades était debout devant lui. Ce qui fait beaucoup de monde. Cette multitude innombrable représente les anges. La scène est solennelle et d'une grandeur indescriptible. Les juges s'assoient prêts à examiner l'affaire du jour. On leur apporte alors les livres qui contiennent toutes les pensées des actions humaines, ce qui nous rappelle que Dieu connaît absolument tout et en détail. Le jugement qui va être prononcé concerne la quatrième bête, l'Empire romain reconstitué en 10 cornes, ainsi que, et surtout, la petite corne qui est l'Antichrist. Il ne s'agit donc pas du jugement du grand trône blanc, aussi appelé jugement dernier en langage populaire. Je continue le texte. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. La répétition de « je regardais » signifie que Daniel redouble d'attention, et la précision jusqu'à un temps, montre que la scène se prolonge dans le temps. 3 ans et demi, pour être exact, ce qui correspond à la durée de la deuxième moitié de la tribulation appelée la grande tribulation. Alors que le tribunal est en session et que la bête profère des paroles hautaines, son jugement est prononcé et la sentence exécutée sur le champ. Elle est tuée, ce qui met fin au temps des nations dont Jésus a parlé et qui permet au Messie d'instaurer son règne de 1000 ans sur la terre. La mise à mort de la quatrième bête correspond à la petite pierre qui détruit la statue de Nabucodonosor. Je rappelle ce passage. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passe pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Quant aux 3 bêtes précédentes, c'est-à-dire les empires babyloniens, médo-perses et grecs, l'une après l'autre, elles ont perdu leur puissance et leur hégémonie. Leur disparition en tant qu'entité politique et puissance militaire a eu lieu dès qu'elles ont épuisé le temps que le Dieu souverain leur avait accordé. Cependant, chaque empire conquis est intégré au suivant, conserve une grande partie de sa culture, qui survit et qu'on retrouve dans l'Empire romain reconstitué, dirigé par la petite corne, c'est-à-dire l'Antichrist. Mais contrairement aux 3 premiers empires qui ont été conquis sur le champ de bataille et annexés, la 4e tête est balayée sans laisser de trace. Suite à son jugement à cause de sa révolte à main levée contre l'Éternel et avec son anéantissement, disparaissent toutes les puissances terrestres. C'est la fin du temps des nations et le début du règne de Dieu. Je continue le texte. Je regardais encore dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel et je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. C'est la 3e reprise de « Je regardais encore dans mes visions nocturnes ». Une formule qui sert à marquer le début de chaque nouvel acte de la vision de Daniel. Le premier nous a présenté les 3 premières bêtes. Le second acte, la 4e bête et son jugement, et le 3e acte nous introduit dans le royaume messianique. Ce nouveau personnage vient du ciel et il le surprend Daniel parce qu'il est semblable à un fils d'homme. C'est-à-dire qu'il a une apparence humaine au lieu d'un aspect angélique comme dans la vision du prophète Ézéchiel. Cet homme n'est pas décrit, mais il ne peut s'agir que du Messie, surtout que Jésus s'est souvent qualifié de fils de l'homme. Et c'est clairement approprié ce passage. Le sens de cette apparition est le suivant. Par leur brutalité, les 4 bêtes représentent sous divers aspects la tyrannie des pouvoirs terrestres qui par la force soumettent les hommes à leur domination. La figure humaine du personnage qui inaugure le royaume de Dieu révèle l'esprit de liberté et d'amour qui, sous son règne, caractérisera l'existence humaine parvenue à sa destination. Il est intéressant de noter que dans cette vision de Daniel, la gloire de Dieu est dédoublée en l'Ancien des Jours et le Fils d'Homme. Nous savons par d'autres textes que l'Écriture invite le Fils d'Homme à s'asseoir à sa droite afin de le couronner et de l'installer dans sa charge de souverain et de juge de toute la terre. Jésus l'a même clairement dit quand il a comparu devant le tribunal religieux juif et que le grand prêtre lui a demandé « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant et venu en gloire dans les nuées du ciel. » Je continue le texte. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue lui apportèrent leurs hommages. La souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. La souveraineté, la gloire et la royauté qui avaient été prêtées pour un temps au monarque des quatre empires sont maintenant données au Messie pour toujours. Dans son évangile, Luc écrit « Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Son royaume sera universel et Dieu régnera et jugera par lui. Alors de nombreuses prophéties seront accomplies. Par exemple, dans le psaume second, on lit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le livre des Actes rapporte que l'apôtre Paul explique ce passage en disant qu'il s'agit de la résurrection du Christ par laquelle Jésus a repris sa position originelle et éternelle de fils, ce qui veut aussi dire qu'il a été remis en possession des attributs divins qu'il possédait de toute éternité et auxquels il avait renoncé pour accomplir sa mission terrestre. Le psalmiste continue et dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Jésus-Christ établira son règne par la force en détruisant l'Antichrist, et seul ceux qui se soumettent à lui entrent dans son règne de 1000 ans, qui est la phase terrestre du royaume éternel de Dieu et qui aura Jérusalem pour capitale. Le prophète Michée écrit « Les nations nombreuses deviendront et se diront les unes aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. » Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je continue le texte. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi, et mes visions me remplissaient d'effroi. Je m'approchais de l'un de ceux qui se tenaient là, debout, pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. La révélation des événements de la fin des temps disparaît, mais la vision continue. C'est ici la seconde fois que Daniel se nomme lui-même, tout en exprimant le très grand trouble qu'il ressent. Plus loin, il précise que la raison de sa détresse intérieure vient du fait que Dieu permet à la quatrième bête de tuer beaucoup de croyants. Je continue. Ces quatre bêtes énormes, dit-il, représentent quatre rois qui apparaîtront sur la terre. L'ange commence à expliquer la vision que Daniel a reçue. Dans les Écritures, le roi est synonyme du royaume qu'il gouverne. Ces empires sont ceux que nous avons déjà rencontrés. Babylone, représentée par la tête en or de la statue de Nabucodonosor, et par le lion ailé. Ensuite, l'alliance des Mèdes et des Perses, symbolisée par la poitrine et les bras en argent de la statue et par l'ours. Puis la Grèce, représentée par le ventre et les hanches de bronze et le léopard à quatre ailes et à quatre têtes. Et quatrièmement, Rome, qui est symbolisée d'une part par les jambes de fer et les pieds en fer et en argile et d'autre part par un monstre. Comme je l'ai dit, ce quatrième empire aura plusieurs phases. La première est celle qu'on trouve dans les livres d'histoire, la seconde est décrite dans les 10 cornes, et la troisième par la petite corne, l'Antichrist. Je continue le texte. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils le posséderont pour toujours éternellement. L'expression « peuple saint » apparaît cinq fois dans ce chapitre et désigne le peuple de Dieu, alors qu'aujourd'hui, il est constitué par l'ensemble des croyants qui forment l'Église universelle de Jésus-Christ. Dans la vision de Daniel, le peuple saint se compose des croyants de l'Ancien Testament. Et à l'origine, Israël devait être une nation sainte, c'est-à-dire consacrée et soumise à l'Éternel. Dans le livre de l'Exode, on lit « Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez, pour moi, un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Israël a totalement failli à son appel, surtout à cause de son idolâtrie endémique. La nation fut jugée et les 10 tribus du Nord déportées par les Assyriens et la tribu de Juda par Babylone. Le mot « saint » apparaît environ 200 fois dans le Nouveau Testament, dont 92 fois pour désigner le Saint-Esprit. Dans les autres cas, il sert à identifier des pécheurs qui se sont reconnus coupables devant Dieu et qui, ayant accepté le salut en Jésus-Christ, sont déclarés justes sur la base de leur foi. Cependant, le sens de ce mot a considérablement changé. Alors que le christianisme s'étend, certains chrétiens mènent une vie fort vertueuse, tandis que d'autres s'envoient mille misères à suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Le mot « saint » commence donc à désigner ces personnes qui sont un modèle de vertu chrétienne. Et après leur mort, ils sont vénérés par ceux qui les ont connus. Finalement, l'Église catholique romaine crée un processus appelé « canonisation », par lequel ces êtres humains exceptionnels sont reconnus comme saints. Le catholicisme donne donc à ce mot un sens fort différent de celui des Écritures. Pour être canonisé, une personne doit faire au moins un miracle après sa mort. Car cela prouve qu'il a été au ciel et non plus au purgatoire. Selon l'enseignement de l'Église catholique, les saints peuvent être vénérés et priés en public, et leurs vies sont des exemples à imiter. Dans le langage populaire, ainsi, le mot « saint » a son propre sens. Parfois, on entend dire d'une personne, généralement une femme, « Oh, c'est une sainte », ce qui veut dire que cette femme est très serviable. Dans les Écritures, le mot « saint » désigne les croyances authentiques de l'Ancienne ou de la Nouvelle Alliance, ainsi que ceux qui seront persécutés à cause de leur foi pendant la Grande Tribulation. Dans l'Évangile selon Matthieu et dans le livre de l'Apocalypse, on lit « Les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. Il lui fut donné, à la bête, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Les saints, dont parle Daniel, représentent l'Israël fidèle ainsi que les païens prosélytes qui croient en l'Éternel comme étant le Dieu unique et vrai. Maintenant, il serait bon de savoir si, selon la définition du Nouveau Testament, vous êtes un saint.